Bonsoir à tous, c'est Tanaël, l'animatrice du podcast On Papote, que vous apprêtez à écouter. Dans cet épisode, divers sujets sensibles vont être abordés, violence physique, morale, maltraitance infantile et viol. Je tenais à vous avertir, vous qui vous apprêtez à écouter cet épisode. Si vous vous sentez concerné ou qu'un de vos proches en est victime, je vous invite à vous rapprocher d'organismes qui peuvent vous aider. Le 119 pour tous les enfants ou mineurs de moins de 21 ans en danger, et le 3919 pour toutes les femmes victimes de violences conjugales. Évidemment, les liens de ces ressources seront en description et je tenais à remercier encore grandement Clara et Camélia qui sont livrées sur un sujet vraiment sensible. Merci à vous et bonne écoute.
Est-ce que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le... Est-ce que j'ai jamais été en couple? Est-ce que c'est grave?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si important que c'est normal.
Chut.
Et bah viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5e épisode de cette 2e saison de votre podcast préféré. Si vous nous écoutez à la radio, sachez que l'émission est également disponible sur les plateformes de streaming pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir les anciens épisodes. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, @onpapote.podcast pour candidater au sujet et découvrir les coulisses de l'émission. Aujourd'hui, je suis au studio avec Clara et Camélia, avec qui je vais parler séparation familiale, garde alternée, absence parentale ou encore répercussions personnelles. Voilà de quoi nous allons discuter dans ce nouvel épisode. Comme vous le savez, nous allons commencer avec le fameux tour de table afin de vous présenter et répondre à la première question qui est « Quel mot représente le mieux votre situation familiale ?»
Donc moi, c'est Clara, j'ai 21 ans et le mot qui décrit ma famille, c'est juste « brisé ».
Alors moi c'est Camélia, j'ai 23 ans et le mot qui représente le plus ma situation familiale, je dirais que c'est désastreuse.
Ok. Et moi, Anaëlle, 21 ans, un mot pour ma famille, je dirais présente. On va commencer par la première partie qui est un point de vue familial. Ma première question est pourquoi vos parents se sont séparés et comment cette nouvelle a été annoncée au reste de la famille proche? Donc famille proche, j'entends frères, sœurs.
Mes parents se sont séparés suite à une tromperie de la part de ma maman. Et donc, elle nous l'a annoncé tout simplement en partant de notre foyer. Donc, du jour au lendemain, elle a décidé de nous abandonner, clairement. Et elle a annoncé ça comme ça. Et puis, on ne l'a plus vue pendant quelques semaines avant qu'elle réapparaisse.
Alors, moi, du coup, c'est un peu différent. Donc, moi, c'est suite à, on va dire, des violences conjugales envers, du coup, ma mère, de la part de mon père, et envers, donc, moi et ma sœur. Comment on a mis fin à cette situation? En fait, c'est tout simplement que ma mère nous a pris avec ma sœur, nous a dit de faire nos sacs. Et puis, on est parti vivre chez ma grand-mère qui habite la même ville pendant quelques jours avant d'emménager, du coup, dans une nouvelle maison. Et puis, par rapport à mon père, on ne l'a pas vu pendant quelques mois.
On a évoqué, du coup, deux situations. Donc, on a, du côté de Clara, la mère qui est partie. Et toi, de ton côté, Camélia, c'est ton père. Enfin, ta mère qui est partie à cause de ton père.
C'est ça.
Du coup, comment cette séparation, en fait, de vos parents vous a-t-elle affectée? Comment est-ce que vous l'avez ressentie un petit peu?
Ça a été finalement pas très brutal, parce que ça faisait des années que c'était la guerre chez moi, que ma maman a trompé mon papa à de nombreuses reprises, et qu'il y avait également, je te rejoins, des violences conjugales de la part de mon papa envers ma maman, puisque c'était assez compliqué pour lui de gérer ça, qu'elle le trompe régulièrement. Donc c'était prévisible, mais ma maman n'était jamais partie pour un autre réellement, donc c'était quand même inattendu. Ok, là, elle a eu l'audace de partir. Donc voilà, et ça nous a affectés, puisque même si c'était la guerre depuis de nombreuses années, on s'est dit, en fait, ils se sépareront jamais, ils s'aiment quand même. S'ils restent ensemble depuis de nombreuses années, c'est qu'ils restent, mais en fait, ils restaient pour nous, principalement. Donc ça nous a affectés, et puis surtout que mes frères, ils étaient quand même assez jeunes. Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 19 ans, donc j'avais la maturité, et oui, j'avais le recul nécessaire pour appréhender la situation, alors que mes frères étaient un peu plus jeunes, en pleine construction dans l'adolescence. Donc ça a créé beaucoup de traumatismes après par la suite, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ça nous affecte dans notre quotidien aussi, dans tout en fait. La séparation, elle est au cœur de notre vie finalement, et on l'a subie presque tous les jours.
Alors d'un côté, c'est une situation que je demandais, donc savoir que j'avais 6 ans quand c'est arrivé, donc j'étais très jeune, ma sœur était encore plus jeune. Donc moi, cette séparation, je l'ai demandée à de nombreuses reprises. Sauf que quand c'est le cas de violence conjugale, c'est très compliqué. Donc ma mère a dû faire appel à un organisme pour pouvoir se sortir de cette situation, on va dire. Et quand c'est arrivé, en fait, c'était suite à du coup des violences que du coup je n'ai pas subies cette fois-ci, mais que j'ai vues. Et en fait, pour une fois, ma mère s'est défendue et mon père est tombé au sol et puis il y avait une grande mare de sang. Okay. Moi, j'étais assise sur ma chaise, je bougeais plus, j'étais terrorisée. Et en fait, c'est ma grand-mère qui est venue me chercher. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire mon sac rapidement. Ma grand-mère est venue me chercher, donc j'ai habité chez elle pendant cette semaine-là. Et puis après, on a déménagé. Donc suite à ça, forcément, bah, on a plein de questions qui se passent dans la tête. Moi, je ne savais pas si mon papa était encore en vie ou pas. Je l'ai su après que oui, il était encore en vie. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, c'était très brutal, c'était très régulier. Je demandais tout le temps à ma mère quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on laisse papa. Et quand c'est arrivé, bah forcément, derrière, il y a des conséquences. Il y a des conséquences surtout sur la scolarité, sur comment on se ressent, nous, face à d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est assez compliqué par la suite.
Quand tu dis que c'est toi qui as demandé, est-ce que tu as été la première à en fait, comprendre qu'il y avait un problème dans la relation que tes parents avaient? Ou est-ce qu'au contraire, ta mère était quand même, le savait qu'il y avait un problème et que ce n'était pas normal?
Alors, ma mère le savait. Okay. Elle faisait bien évidemment tout pour me protéger. Mais comme j'ai dit, c'était très compliqué pour elle de sortir de cette situation-là. Parce que mon père, en plus de ça, était alcoolique. Donc, fallait prouver qu'il était alcoolique et que c'était à cause de son alcoolisme qu'on subissait des violences. Parce que quand il ne buvait pas, on va dire, il était très gentil.
Ouais.
Donc, c'était deux salles, deux ambiances, le matin quand je partais à l'école et le soir quand je rentrais.
On a parlé du coup de cet aspect d'impact pour vous, mais est-ce qu'il y a eu quand même un impact aussi sur votre relation que vous avez avec vos frères et sœurs? Parce que du coup, Camilla, toi, tu as une sœur, mais toi, Clara, est-ce que tu as un frère, une sœur?
Oui, j'ai deux frères et j'ai été leur maman en fait pendant toutes ces années. C'est moi qui les ai protégés. Et d'autant plus quand maman elle est partie, c'est moi qui ai pris le rôle de la maman dans le foyer. Et c'était pas facile parce que, comme je disais, ils étaient en pleine construction, donc faut les éduquer sur plein de choses que la maman elle fait de base. Et puis mon papa, qui était hyper triste de cette séparation, il était malheureusement pas trop présent à ce moment-là. Donc je faisais à manger, je faisais les lessives, je faisais les courses, je faisais beaucoup de choses pour quelqu'un de 19 ans, et c'était hyper lourd à porter. Mais en même temps, j'étais la seule présente pour eux, donc j'avais pas le choix et je devais mener à bien cette mission que je m'étais donnée, même si c'était pas facile.
Et ils avaient quel âge, si c'est pas indiscret?
Bah, ils avaient 12 ans, 12 et 15 ans.
Ouais.
Donc 15 ans, c'est quand même âgé, mais pas tant que ça en fait. C'est encore notre maman qui nous fait tout à la maison.
Alors moi, c'était à peu près la même chose, même si j'étais très jeune, je me suis toujours occupée de ma sœur. Donc quand il y avait des violences, bah, je la cachais, je l'enfermais dans certaines pièces où mon père n'avait pas accès, on va dire, ou n'avait pas le temps de chercher. Et bah, quand on a quitté cette situation-là, j'ai toujours gardé ce rôle de protéger ma sœur, alors que j'étais encore plus jeune que toi. Donc c'est encore plus compliqué, je pense, mais au final, c'est quelque chose qui est resté. Je m'occupe toujours d'elle à l'heure actuelle pour aider ma maman, parce que c'est pareil, elle travaillait beaucoup. Donc ma grand-mère a été très présente pour nous, mais... c'est pareil, au collège, quand je rentrais, je faisais les devoirs à ma sœur, alors que j'avais moi-même les miens aussi à faire derrière.
Ouais, donc il y avait une double casquette quand même de parentalité que vous avez dû endosser un peu par rapport à cette séparation-là.
C'est ça. Ouais. Puis comme tu disais, y avait des violences aussi chez moi. Et limite, c'est moi qui me prenais les coups parce que je protégeais ma maman. Mais c'était les gars, oui, comme tu disais, je me retrouve complètement là-dedans, où je les enfermais dans la chambre. Restez là, bougez pas, j'arrive, je vais voir ce qui se passe. Alors que moi-même, je suis qu'une enfant, que ce que je viens de voir, c'est... Sauvez-moi. Mais non, on a une force qui nous dit protège tes frères d'abord et puis après toi tu verras. Mais on a une sacrée force quand même pour les protéger parce que on n'a pas envie qu'ils voient ça et qu'ils se rappellent de tout ça après quoi.
Donc là on a évoqué l'impact que vous avez, enfin l'impact du coup que la séparation a eu, même avant la séparation. Est-ce que vous pensez avoir été correctement accompagné dans cette étape, du coup, sur cette séparation avec vos parents? Donc, la question entreprend répondre à toutes les questions qui peuvent passer par la tête d'un enfant. Donc, pour toi, Clara, c'était pourquoi, en fait, elle est partie, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, après pour toi, Camélia? Vous voyez, c'est un peu toutes ces questions-là qui peuvent s'englober dès l'instant où on se dit, y a un parent qui part, il va se passer quoi?
J'ai essayé d'en parler, alors un peu plus jeune déjà, parce qu'au collège, y a tout qui se mélange. Au collège, c'est quand même une sacrée étape. Et les violences étaient déjà présentes à cette époque, donc j'avais essayé d'en parler à une prof que j'aimais bien, où je m'étais un peu confiée, parce que j'étais clairement seule face à ça. Et j'en garde un mauvais souvenir. J'ai été raconter ça à la CPE, qui m'avait dit, je vais prévenir les services sociaux, quoi. J'ai dit, non, c'était pas ça que je voulais juste en parler. Après, oui, il fallait trouver des solutions, mais peut-être pas, c'est pas ce que je demandais en tout cas à ce moment-là. Donc après, j'en ai plus parlé, hein, à part à des amis, mais qui, elles, étaient dans la même situation que moi. Elles n'étaient pas aussi matures qu'une adulte. C'était pas des organismes spécialisés, donc en parler, ça ne servait pas à grand-chose finalement, quitte à juste faire du bien. Mais il y a peu de personnes qui ont les réponses à nos questions à ce moment-là, puisqu'on est les seuls à vraiment voir les scènes et à comprendre l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre. Donc malheureusement, ça fait du bien de parler, mais ça suffit pas souvent, quoi.
Alors moi, c'était un peu la même chose, mais en fait, comme je l'ai dit au début, c'est moi qui avais demandé cette séparation-là. C'est vrai qu'à 6 ans, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc moi, j'en avais parlé à personne. J'ai remarqué que la situation n'allait pas, non pas parce que ma mère me l'a expliqué, mais parce que j'en parlais avec des copines. Les copines me racontaient leur journée, comment ça se passait quand elles rentraient. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas normal. Parce que moi, le matin, tout était normal. Mais le soir, quand je rentrais, je me prenais des coups tout le temps. Et je m'enfermais dans ma chambre. Donc la plupart du temps, je mangeais dans ma chambre. Je ne sortais pas, ni pour aller aux toilettes, ni pour aller à la douche. Donc en fait, tout ce qui va être à la douche, j'y allais quand ma mère avait couché mon père. Et par exemple, les toilettes, je devais tout faire dans ma poubelle. Tout. Donc c'est là où je me suis rendu compte, en parlant avec mes copines, qu'elles ne faisaient pas ça. Donc je me suis dit, là, il y a un problème. Et quand, du coup, la séparation a eu lieu, réellement, ça a tout changé, puisque j'ai déménagé. Donc je n'avais plus ce souci, on va dire, de faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Mais pour autant, j'en parlais pas à mes amis ou à qui que ce soit, ni ma mère, ni personne. C'est comme si je vivais dans un monde à part. C'est une situation qui n'avait pas existé auparavant. Mais par contre, à l'inverse de ça, moi, j'ai eu un accompagnement psychologique. Donc, j'avais pas le choix. J'ai été suivie donc, de mes 6 ans jusqu'à, on va dire, mes 15-16 ans. Et après, c'est un autre organisme qui prend le relais. Et puis, après 18 ans, on a le choix de poursuivre ou non, on va dire, cette thérapie, si je puis me permettre. Mais c'est vrai, quand t'as 6 ans et que tu vas chez le psychologue, tu discutes, oui. Mais dans mes souvenirs, je faisais souvent des dessins ou des choses comme ça. Un dessin qui représente la famille. Enfin, c'est pas ce qui m'aidait à l'époque. Et je pense que j'ai pas eu le temps d'assez en parler. Parce que plus tard, c'était beaucoup plus compliqué. À chaque fois, on revenait sur mon passé. Je veux dire, j'ai 15 ans, la situation s'est arrêtée depuis que j'avais 6 ans. À chaque fois, on revenait sur mon passé et donc j'en parlais pas parce que c'était pas le bon moment d'en parler, en fait.
Vous avez évoqué le fait de vouloir en parler, mais de vouloir garder en même temps ce truc-là. Vous avez jamais eu ce besoin, en fait, de dire, toi, Camélia, tu le dis depuis le début, tu fallais partir, je voulais partir, j'avais demandé à ma mère de partir, mais vous avez jamais essayé, tu l'as dit, Clara, t'as interpellé du coup ta prof, mais t'as jamais, je sais pas comment formuler mon truc, mais tu voulais quand même avoir de l'aide, mais tu voulais pas l'ampleur qu'il allait avoir derrière.
C'est exactement ça. On a trop peur d'être séparés de nos parents. On a honte aussi, déjà dans un premier temps, parce que on a honte. J'avais pas peur de mon papa, mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il va me dire ? Là, j'ai été raconter ce qu'il faisait, ce qui était pas bien. Et d'autant plus qu'il y avait l'alcool aussi, moi, qui se mêlait presque pour mes deux parents. J'avais honte et j'avais peur des représailles que j'allais avoir. Après, mes parents ne m'auraient pas frappée, ça c'est pas quelque chose chez moi, et heureusement pour moi qui a pas été le cas, mais j'avais peur que même mon papa s'en prenne à ma maman, ou inversement. Je savais que ça allait provoquer quelque chose d'énorme, et j'avais trop peur de ça. Et d'un côté, j'aimais mes parents, donc j'avais pas envie d'être séparée d'eux. J'aimais partir en vacances avec eux. On avait un foyer qui, même si c'était la guerre la plupart du temps, qui était assez réconfortant pour moi, donc j'avais pas envie d'arrêter tout ça. Mais j'avais envie d'arrêter que les violences s'arrêtent et que ce soit plus calme à la maison. C'est un peu un juste milieu qui est compliqué à trouver.
Alors oui, c'est vrai que c'est une question qui est difficile parce qu'on veut en parler, mais en même temps, on a peur des répercussions. Je te rejoins là-dessus également. Je pense que c'est surtout parce que c'est une question de honte. Moi, en tout cas, dans mon entourage, dans mes copines, et puis à l'époque, on en a beaucoup quand on est à l'école, personne n'avait cette situation-là. Tout le monde avait un papa, une maman qui s'aime, qui sont mariés. Et qu'ils soient ensemble et ça se passe très bien. Et quand on est seul dans cette situation-là, déjà on a honte d'en parler, mais on a envie d'en parler. Mais derrière ça, on se dit, il va peut-être y avoir des répercussions, je vais peut-être être exclue parce que ça se passe pas comme prévu. Enfin, je sais que moi, j'en ai pas parlé pendant très longtemps à mes copines. Et en fait, le problème, c'est que, par exemple, aux anniversaires, j'invitais jamais mes copines à la maison parce que c'était pas possible à cause de mon père. Sauf que derrière, mes copines ne m'invitaient pas parce que je les invitais pas non plus. Donc ça avait pas mal de répercussions. Ça me donnait plus envie d'en parler, mais en même temps, j'avais ce besoin. Et pareil, après, il pouvait y avoir des répercussions. J'avais peur que si j'en parlais à quelqu'un, mon père fasse quelque chose. Parce que oui, donc il est parti du coup en désintox. Après, c'était un asile, pas un asile psychiatrique, mais un hôpital psychiatrique. Et il s'est échappé plusieurs fois de là-bas. Et le pourquoi du comment on a déménagé, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le droit de connaître notre adresse. Sauf que ben, moi, je me suis dit que si j'en parlais à des gens, ben, ils allaient dire où j'habitais maintenant. Donc j'avais peur qu'ils venaient. Et au final, c'est ce qui est arrivé. J'en ai parlé à des gens. Et je ne sais pas comment mon père a appris où j'habitais. Dans tous les cas, il savait où habitait ma grand-mère. Et plusieurs après l'école, il venait, il menaçait ma grand-mère. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de plus jamais en parler. Et donc là, c'est la première fois, on va dire, que j'en parle depuis ce moment-là. Parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aura plus de répercussions. Et comme il pouvait y en avoir avant.
Du coup, on l'a évoqué, on a dit qu'il y avait quand même un rôle parental qui s'était installé pour vous. Donc, vous aviez dû prendre un peu le rôle de votre mère pour, du coup, les frères et sœurs que vous aviez. Est-ce que, du coup, ça a eu un impact aussi sur vous et votre évolution après, sur la suite ?
Je trouve pas. Au contraire, ça m'a fait... J'ai pris en maturité énormément, même si c'était trop jeune pour l'apprendre. Ce que j'ai appris... toutes les tâches du quotidien qu'on apprend généralement quand on a son premier appartement. Je l'ai appris un peu plus tôt, mais je l'ai appris quand même.
Alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pareil, ça a un impact. Parce que bah, forcément, on ne s'attend pas à cette situation-là, on la vit. Et comme tu dis, je pense qu'on a tous déjà entendu cette phrase. Tu parais beaucoup plus mature que les autres pour ton âge, mais forcément, derrière, bah, nous, ce n'est pas papa-maman qui s'occupe de nous. On doit s'occuper de nos, bah, nos frères et sœurs parce que... Bah, en l'occurrence, nos parents, ils sont dépassés par les événements. Moi, ma mère travaillait tard, commençait très tôt le matin, donc bah, je devais m'occuper de ma sœur. Enfin, je sais très bien, je me levais à 5h du matin, j'allais chez ma grand-mère. Ensuite, ma grand-mère m'emmenait au centre aéré, et le centre aéré m'emmenait à l'école. Et le soir, c'est pareil, j'étais la dernière à partir. Donc forcément, quand on a déménagé, bah, tout ce que je ne pouvais pas faire avant, je l'ai fait. Donc c'est parti très loin. Enfin, j'avais toutes les choses que je ne pouvais pas faire avant. Là, je pouvais les faire, donc j'avais plus de liberté. Donc j'étais passée de l'enfant qui s'occupait de ma sœur, donc je l'ai toujours fait, mais à l'enfant qui a besoin de liberté, qui, voilà, j'ai fugué de nombreuses fois, parce qu'avant, c'était, je ne pouvais pas le faire. Là, je fuguais, je sortais tout le temps, alors qu'avant, je ne pouvais pas sortir. C'était très, très différent, et il fallait que je m'accroche, parce que ma sœur derrière commençait à faire comme moi. Sauf qu'elle, bah, c'était plus compliqué parce qu'elle ne savait pas s'arrêter, donc je devais m'en occuper. Enfin, ça a été vraiment très très loin dans le sens où bah, j'ai fini à l'hôpital, ma sœur, bah, la police venait tout le temps parce qu'il y avait toujours un souci, elle a dû changer de collège. C'était dur, on va dire, de la ramener dans le droit chemin, alors que moi j'avais réussi à le faire parce que c'est grâce à elle. Quand j'ai vu qu'elle faisait la même chose que moi, bah, fallait que j'arrête pour qu'elle revienne dans le droit chemin.
Okay.
Donc forcément, ça a eu des impacts depuis la séparation et encore maintenant.
On va passer à la question transition qui va nous ramener à la deuxième partie. Ma question est, est-ce que vous avez réussi à garder quand même un semblant de vie familiale qu'on a un peu abordé la question comprend principalement des activités ensemble ou même passer du temps avec le parent qui était le plus souvent absent.
On faisait beaucoup de choses avec ma maman donc avant la séparation. C'est vrai que c'est... la maman qui nous emmenait faire du shopping, qui nous emmenait faire des activités vraiment pour les bons côtés finalement. Mon papa, il avait plutôt le rôle du cadre, donc on faisait pas de choses très fun avec lui à cette époque. Après séparation, moi j'ai mis beaucoup de temps à essayer de lui pardonner à ma maman le fait qu'elle soit partie du jour au lendemain. Donc aujourd'hui on fait les mêmes activités qu'on faisait il y a quelques années, donc du shopping, des bars, des restos, voilà des choses où... on n'a pas besoin vraiment de rentrer en discussion profonde. Ça va être des choses assez légères parce qu'on sait que j'ai encore beaucoup de rancœur. Donc on ne va pas pouvoir, par exemple, passer beaucoup de temps ensemble à partir du 2-3e jour. Ça va être compliqué, on a des caractères assez forts et il y a forcément un moment où je vais lui faire un pic ou l'inverse. On va parler d'un sujet qui fâche et on va passer un mauvais moment après. On essaye de tempérer ces moments, de passer des bons moments quand on est ensemble et quitte à se voir moins. Mon papa, c'est tout pour moi, donc là, avec lui, en tout cas, il n'y a aucun problème.
Alors moi, c'est un peu différent dans le sens où bah, mon papa, je ne sais pas si même encore à l'heure d'aujourd'hui, je lui ai pardonné ou pas. Je ne faisais pas d'activité avec lui, forcément. Bah, il était tout le temps alcoolisé, tout le temps très violent. J'ai quelques photos où j'avais l'air heureuse avec lui quand j'étais très petite, mais je ne me souviens pas. Et puis, comme je l'ai dit, comme il était en hôpital, en fait, c'est très simple, jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu le droit de le voir une seule fois par mois dans un... Alors, je ne saurais plus dire quel est l'organisme, mais en fait, c'est plusieurs pièces avec des personnes qui sont là et qui, on va dire, nous surveillent si besoin. Donc, il y a un rendez-vous qui est fixé chaque mois et on n'a pas le choix d'y aller. Donc, ça, c'est jusqu'à, on va dire, nos 12 ans. Et puis après, c'est la même chose, mais cette fois-ci, bah, là, j'ai changé d'établissement. Il n'y avait carrément plus de portes. Donc, tu vois ton papa une fois dans le mois, il n'y a pas de porte. Et puis, il y a des gens qui viennent toutes les deux minutes voir si tout va bien. Donc, forcément, ça crée pas... Enfin, ça ne nous permet pas de faire des activités à l'extérieur. Donc, je n'ai jamais fait d'activité avec mon père, encore aujourd'hui. Les seules activités que je fais avec lui, bah, c'est... Maintenant que j'ai 18 ans, je ne suis plus obligée d'aller dans cet établissement. Mais c'est, en fait, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il est sous curatelle. J'essaye de le mettre sous tutelle. Donc, c'est très difficile. Il continue à boire, sauf qu'il a des gros problèmes de santé. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué dans le sens où je... C'est horrible à dire, mais je ne pense pas qu'il lui reste... beaucoup de temps à vivre dans cette situation. Et pour autant, bah, je ne fais pas plus d'activités de lui puisque je suis obligée de prendre soin de lui. Et à côté de ça, bah, ma mère, je pensais que cette situation, on va dire, allait nous rapprocher, sauf qu'au final, pas du tout, puisque j'étais devenue une enfant super difficile à vivre. J'étais contente qu'elle ait quitté, on va dire, mon père, mais je ne lui pardonnais pas pour tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'avais pas vécu, parce que je n'ai pas vraiment vécu d'enfance, hein. Je faisais pas d'activité, j'allais chez moi. Le soir, j'étais terrorisée à l'idée de rentrer chez moi. Le week-end, je faisais tout pour pas être là. Donc, ça a été compliqué. Donc, je faisais pas d'activité avec ma mère. Pareil, son travail, bah, tout a été... Ça s'est très vite passé. Donc, elle avait pas non plus énormément de temps à nous consacrer. Donc, c'était surtout des activités avec ma grand-mère. Qui a, je peux le dire, était beaucoup plus présente que ma mère dans cette situation-là. Mais ma mère, ce n'était pas volontaire de sa part. Ouais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je passe du temps avec ma mère, mais c'est comme toi. Un jour, deux jours, trois jours, et au bout de trois jours, je vais lui lancer des piques pour X raisons. Je ne saurais pas lui expliquer, parce que sur le moment, j'ai besoin de lancer des piques, on va dire. À l'heure d'aujourd'hui, bah, on n'est pas si proche que ça. Quand je compare, voilà, y a des gens, ma mère vit à une heure de Rennes, bah, je ne lui envoie pas tout le temps des messages, je communique vraiment pas souvent avec elle. Par contre, quand on se voit, bah, ça se passe super bien, mais pendant juste le temps d'un week-end. Enfin, on ne va pas pouvoir rester plus longtemps ensemble, justement, parce que, bah, à cause de cette séparation et à cause de tout ce que ça a entraîné. Mmh. Et vu qu'on n'a jamais eu le temps de passer vraiment des moments ensemble, bah, forcément, aujourd'hui, on ne va pas, du jour au lendemain, faire plein d'activités ensemble alors qu'on n'en a jamais fait avant.
On va passer, du coup, à la deuxième partie, qui est un peu plus légère que la première, qui est d'un point de vue personnel. Donc là, on va vraiment parler, du coup, de vous et de votre ressenti. Donc, ma question est, pensez-vous que cette séparation a eu un impact sur votre vie personnelle par la suite? Donc, on l'a déjà eu un peu comme question, on l'a un peu abordé au début. Donc là, je partirais plus sur quelque chose au niveau du choix des études, au niveau du choix relationnel, donc amical comme amoureux, avec les gens qui vous entourent en général.
Alors oui, forcément, moi, ça a tout chamboulé de mon côté. Alors, il y a plein d'autres facteurs hein, qui rentrent en jeu, mais à la suite de leur séparation, c'était la fameuse période Parcoursup, qui pour moi était un enfer. Donc, j'étais pas prise là où je voulais et proche de ma famille. Donc, j'ai dû, à la suite d'un piston, etc., partir à 400 km de chez moi. Et ça a été super difficile, mais ça a été la meilleure décision de ma vie, finalement. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai pu faire tout ce dont j'avais été privée la dernière année. J'avais mon chez moi où c'était calme, où je pouvais faire ce que je voulais, et donc ça a vachement influencé après mes ressentis et aussi dans mes relations, puisque par exemple avec mon copain, moi l'amour s'arrêtera un jour, c'est hyper triste à dire, mais je crois pas vraiment en l'amour, ou alors à un amour court, passionné, comme mes parents ils ont eu finalement quand ils étaient jeunes à mon âge. Ils s'aimaient très très fort, et peut-être tellement fort que ça s'est terminé, je sais pas, mais ça influence beaucoup ma relation, en tout cas actuelle. Et je me dis, ben, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il peut y avoir des familles sans violence, sans tromperie, sans méchanceté, sans tout ça? Je pense que oui, j'ai quand même un côté qui me dit, ben, oui, regarde autour de toi, il y a plein de gens heureux. Mais est-ce que moi, je ne vais pas reproduire finalement chez ma familiale? Après, c'est vraiment des questions tristes, mais c'est des questions qu'on se pose tous en tant que issue de parents séparés. J'espère pas que ce sera le cas et qu'on ne fera pas la même chose que nos parents, mais même l'alcool, notamment, c'est un sujet où... Bah, est-ce qu'à un moment, on va tomber dedans? Je sais pas, il y a plein de choses il y a plein de questions qu'on se pose sur nos vies futures, même les enfants. Aujourd'hui, moi, je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants. C'est un peu critiqué dans mon entourage, mais je suis assez ferme là-dessus. En fait, j'ai pas envie de faire subir ça à mes propres enfants. Même si je ferais tout pour être une bonne maman, c'est pas ça le problème, mais de choisir quelqu'un qui va leur faire du mal dans leur vie. Voilà, c'est des questions un peu lourdes et qu'on devrait pas penser à 20 ans, mais qui sont là quand même, et on doit vivre avec ces questions dans notre vie de tous les jours, quoi.
Je te rejoins parfaitement, puisque c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, je me pose exactement la même question. Je suis en couple également. Est-ce que plus tard, bah, cette situation va se reproduire. Est-ce que... Alors moi, j'ai quand même envie d'avoir des enfants, mais c'est pareil. Est-ce que je vais être capable de les élever? Est-ce que le papa, un jour, va avoir un souci, va tomber alcoolique et va se reproduire le même schéma? En fait, on a peur que ce schéma-là se reproduise. Et moi, dès le plus jeune âge, hein, ça a été très compliqué dans le sens où bah, je ne faisais pas confiance aux hommes. Les garçons de mon école, bah, je ne leur parlais pas parce que j'avais peur. Ça a été le cas pendant très longtemps. Ma mère s'est remise une fois avec un homme qui était très présent, trop présent. Je ne voulais plus aucune présence masculine. Je l'ai fait fuir. Hein, clairement, j'ai tout fait pour le faire fuir. J'ai fugué, j'ai tout expliqué à ma mère. Je lui ai dit « je ne veux pas de lui ». Donc au final, ils se sont quittés, je pense, à cause de moi, même si elle ne me l'a jamais dit. Et pareil, après, j'ai essayé d'avoir des relations amoureuses, si je puis dire. Mais mes premières relations, je me suis fait tromper. Donc je me suis dit, bah, alors là, il y a un gros problème. Je pense que c'est moi le problème. Et j'ai fini par rencontrer une personne avec qui je suis aujourd'hui. Et pour autant, j'ai toujours peur de, bah, que cette personne m'abandonne, comme mon père l'a fait, comme toutes les présences masculines que j'ai eues dans ma vie l'ont fait. Donc ça impacte forcément ce que je pense à l'avenir. Est-ce que bah, c'est cette personne-là? Est-ce qu'elle ne va pas me laisser tomber? Est-ce qu'elle va être violente avec moi à un moment donné parce que je l'aurais poussée à bout? Parce que je suis comme ça, je pousse les gens à bout pour voir s'ils partent. S'ils partent, bah, ça me rassure, mais s'ils partent pas, bah,
ça t'inquiète.
Ça m'inquiète aussi. Je me dis, mais pourquoi la personne reste alors que bah, forcément, tout ce que j'ai vécu, c'est difficile aujourd'hui à quelqu'un. Quelqu'un qui rentre dans ma vie, bah, tout ce que j'ai vécu, c'est difficile, on va dire, à supporter.
Ma question suivante, du coup, elle rebondit avec la première. Vous l'avez dit, c'est beaucoup plus compliqué de faire confiance à quelqu'un, à une présence masculine. Et du coup, par rapport à toi, Clara, qui a du mal, du coup, à croire en l'amour après 40 ans, est-ce que vous pensez qu'un enfant du divorce peut quand même croire en l'amour avec un grand A?
Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'autour de nous, il y a d'autres amours qui sont différents, mais il y en a plein d'autres. Mes grands-parents, par exemple, des gens que j'adore, ils s'aiment depuis 50 ans. Donc bien sûr que j'y crois, mais c'est pas la même chose de croire à un amour qui n'est pas de ses parents. Je sais pas comment l'expliquer, mais bien sûr que oui, il peut y croire. Et j'espère aussi qu'avec le temps, il y aura de plus en plus de séparations qui seront faites dans la bienveillance, parce que je suis persuadée qu'un enfant qui a des parents séparés, mais qui font les choses bien, l'enfant, il peut être très heureux, et puis il peut vivre sa vie. Si ses parents, ils sont là pour lui, il a son petit rythme, si tout va bien et si tout se passe bien, bah, pour moi, oui, il va y croire. C'est sûr qu'après, quand il y a des choses un peu plus douloureuses, ça fausse un peu les idées, mais bien sûr qu'il peut y croire.
Je pense que comme nous, si on a vécu des situations vraiment compliquées, même s'il y a toujours pire forcément, si nous, on arrive à y croire, même si c'est pas pour nous, mais c'est pour les autres, parce que bah, on le voit, les grands-parents, les amis de nos amis, même si nous, on peut y croire pour les autres, bah, je vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas y croire non plus. Et puis comme tu l'as dit, effectivement, je pense que si la séparation se fait dans la bienveillance, et bah, normalement, ça devrait pas... Enfin, il y a plein de familles où ils ont des beaux-parents qui sont adorables... Ils disent, oui, bah, c'est ma belle-mère, mais je la considère comme ma mère. Bah, dans ces situations-là, ça se passe super bien. Et on voit bien que bah, l'amour, il est là, même après 40 ans. Même si moi, dans mon cas, j'ai un peu de mal à y croire, je pense, comme toi. Mais pour autant, on arrive à y croire pour les autres. Donc il faut juste que nous, on apprenne à réparer les blessures du passé pour que nous, à notre tour, on puisse être heureuse et croire en l'amour à 100%, on va dire.
C'est très beau.
Tout à fait. Ça tout à fait
c'est poétique.
Est-ce que vous avez quand même... cette peur que ça vous arrive, que c'est ce genre de, bah, de violence ou même ce genre de séparation, ou même une séparation tout court, une séparation bienveillante, comme on l'a dit la dernière fois, bah, arrive en fait et que bah, ce schéma soit se recrée, mais ou se recrée d'une autre façon.
Alors moi je pense que oui, on aura toujours cette peur bah, que le schéma se reproduise. Alors, dans mon cas, moi j'ai tout fait, alors, même encore maintenant, pour ne pas faire tout ce que ma mère a fait ou tout ce que mon père a fait, c'est-à-dire que mes études, j'ai fait l'inverse de ma mère, vraiment l'inverse, alors qu'il y a des... il y en a, c'est... les parents sont médecins, bah les enfants aussi, et machin, et c'est comme ça, c'est une entreprise familiale où il y a toujours un rapport, même ne serait-ce que dans les études ou dans les choix de vie. Ma mère a eu deux enfants, bah, est-ce que je veux deux enfants aussi? Je sais pas. C'est plein de choix que chaque jour, bah, je me dis... j'ai pas envie d'avoir ce schéma-là, donc je fais autre chose. Ma mère, elle a vécu en Bretagne. Bah, la première fois où j'ai eu l'occasion de partir de la Bretagne, c'était pour mes études supérieures et j'ai voulu aller à Paris. Donc, vraiment, beaucoup plus loin, alors que j'ai jamais vécu toute seule. J'avais jamais pris le train, jamais pris l'avion ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'on a toujours cette peur de vouloir faire comme nos parents, mais avec le temps, bah, je commence à me dire que, bah, y a certains choix qu'elle a fait qui sont pas forcément, enfin qui peuvent être bons en fait. Il faut juste pouvoir bien par la suite gérer la situation. Voilà, si je veux deux enfants, bah j'assume que j'ai deux enfants. Ma mère, elle a eu du mal à nous assumer dans le sens où on n'est pas, on n'était pas voulu en temps normal. C'était plutôt un viol ou des choses comme ça. Donc forcément, si je veux deux enfants, bah je les veux. Alors que avant, je me serais dit, bah j'ai été toute seule avec ma sœur, bah je veux pas avoir deux enfants. Je veux en avoir soit un, soit trois, mais vraiment pas deux. Donc oui, ça a un impact et on fait tout pour l'éviter. Mais je pense qu'il y a un moment donné où on laisse un peu passer les choses et on se dit, bah c'est pas parce que ça s'est passé comme ça chez nous, que, enfin dans ma famille, que moi je vais reproduire les mêmes choses. Et en plus, je vais tout faire pour pas reproduire les mêmes. Mais c'est vrai que voilà, quand tu as vécu dans la peur, dans l'abandon, et ben il y a des choses que tu ne sais pas faire. Tu sais pas donner de l'amour aux gens, tu sais pas comment faire. Moi, quand j'ai rencontré mon copain, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable de dire je t'aime s'il me le dit pas avant, par exemple, parce que je l'ai jamais dit à ma mère, parce que bah, j'ai pas vécu dans cette situation-là, mais j'essaye de changer et d'améliorer les choses. Faut juste qu'on se dise, bah ça se passera pas comme ça si on le veut pas.
Ouais, puis on a le recul nécessaire que la séparation se passe pas comme ça, même si il y a un problème, même s'il y a de l'alcool, même s'il y a plein de choses qui arrivent. Je pense qu'avec ce qu'on a vécu, on va se dire, ok, bah dans tous les cas, on part. Après, c'est plus difficile dans certains cas, il y a plein de choses, hein, mais on aura la force de se dire, bah nous on part. Nos mamans elles l'ont pas fait ou nos papas l'ont pas fait. Mais nous, on va partir et on va tout faire pour que ça se passe bien. On va protéger notre famille si on en a une. Voilà, on se protégera plus et on laissera moins passer les choses. Je sais que je vais être beaucoup exigeante aujourd'hui. Pas parce que j'ai envie d'embêter mes proches, mais parce qu'il y a plein de choses que juste je supporte plus. Donc je sais que je suis peut-être difficile à vivre, notamment par exemple sur l'affection. Toi, tu dis c'est le je t'aime. Bah, moi, ça va être l'affection, les câlins, etc. Je vais avoir un peu de mal. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Sauf quand j'en ai envie, mais j'ai pas vu mes parents le faire, donc bah, pour moi c'est pas naturel. On va faire toutes les choses possibles pour que ça se passe pas, ou alors que ça se passe bien, comme tu disais, dans la bienveillance de A à Z.
Mais est-ce que du coup il y a plus d'exigences un peu sur vos relations amoureuses ?
Moi oui, ouais. Je laisse rien passer entre guillemets, j'ai peur qu'il parte, qu'il m'abandonne, mais en même temps je le pousse à partir parfois. C'est hyper toxique, hein, j'en suis totalement consciente. Mais malheureusement, je le fais pas exprès et je pense que ouais, ce serait bien d'en parler aussi, moi, de mon côté, pour pas qu'il vive ce genre de choses. Mais j'y peux rien et je suis. Dès qu'il va faire quelque chose, ou même parfois une parole un peu forte, où il va pas me crier dessus, mais il va hausser le ton et je vais me crisper tout de suite, je vais hyper mal le prendre alors que c'est rien du tout. Ce genre de petits détails qui font que c'est pas facile pour lui non plus et il sait pas comment prendre. Parfois je vais être très heureuse, parfois je vais pas du tout avoir envie et c'est à lui de s'adapter alors que enfin, c'est pas le cas. Lui normalement il est bien tout le temps, c'est à moi de faire les efforts nécessaires pour que ça se passe pas comme
ça. C'est exactement la même chose, je suis du coup hyper exigeante parce que je veux pas du tout que ce schéma se reproduise. C'est pareil, je laisse rien passer. Ça peut être du tout au tout, hein. S'il y a une tromperie, bah, c'est terminé, il n'y aura pas de je te laisse une seconde chance, machin, parce qu'on l'a vécu, hein, des situations où, bah, comme toi, ça a continué longtemps, et au final, bah, ça a fini par mal se passer, alors que ça aurait pu arrêter net à ce moment-là et se faire dans la bienveillance et expliquer les choses. Donc oui, c'est difficile, je pense, pour notre entourage de subir, on va dire, le fait qu'on soit très exigeante, pardon, avec justement notre entourage ou même dans la vie de tous les jours. On laisse rien passer et ça peut être terrifiant et puis c'est pas aux autres en fait c'est compliqué à dire mais c'est pas aux autres de s'adapter, on sait que nous aussi on doit s'adapter. Après je vais pas dire nos copains sont parfaits, même si bon, on pense un petit peu, mais on va pas dire qu'ils sont parfaits, qu'ils font pas d'erreurs, mais c'est juste que il faut qu'on, nous on soit plus tolérantes envers eux et que eux soient également plus tolérants envers nous, puisque on a vécu des choses pas faciles et ça se répercute forcément sur sur notre vie actuelle, hein, on est hyper exigeante, on laisse rien passer, enfin c'est compliqué.
Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui, elles aussi, vivent un divorce, donc parents comme enfants ?
Je pense que le plus important, honnêtement, c'est d'en parler. Pas forcément à des copines, à nos professeurs, à des personnes juste en qui on sent qu'on est libre d'en parler. Je pense que ça aurait pu en aider plus d'un, parce qu'il y en a beaucoup qui gardent ça pour eux, et je pense qu'il y a un moment donné où ça explose. Donc oui, en parler dès le plus jeune âge, et il faut que tout le monde comprenne que c'est pas parce qu'il y en a qui ont vécu des situations difficiles, des séparations difficiles, que ça peut pas être une séparation facile.
Et moi, le conseil, je pense que ce serait juste de pas le prendre pour soi. Longtemps, j'ai cru que ma maman, elle trompait mon papa pour moi. Enfin, je me disais, oui, bah, c'est de ma faute, en fait. Je sais pas, elle est pas heureuse, je lui donne pas assez d'amour, donc elle est pas heureuse et elle a besoin de ça. Ou alors, mon papa, bah, il a tendance à boire un peu trop parce que c'est pareil, c'est à cause de moi, il est pas heureux. Mais en fait, non. On vit avec leurs propres traumatismes et des choses qu'ils ont jamais réglées dans leur vie. Et malheureusement, nous, on est obligés de vivre avec et de les soigner par la même occasion. Alors que quand on est enfant et même adulte, on ne peut pas. Souvent, c'est des choses qui traînent depuis des années de leur enfance, de leur propre enfance. Donc, c'est juste de ne pas le prendre pour soi. Et comme tu disais, ben, c'est mille fois mieux des parents séparés, mais avec qui on peut passer des bons moments aussi séparément, que dans un même foyer où c'est dispute sur dispute. Et aussi, bah, de pas leur en vouloir parfois, même s'ils n'ont pas réussi à avoir le schéma familial qu'ils voulaient, bah, c'est pas grave, peut-être qu'on aura eu des bons moments, des moins bons, mais rester quand même présent pour eux. Je te rejoins tout à fait sur ton papa, moi je serais incapable de le laisser, comme ma maman elle a besoin de moi aujourd'hui pour tout ce qui est administratif, etc. Je suis incapable de la laisser se débrouiller, je la prends sous mon aile, et tant pis, en fait c'est moi qui supporte, mais c'est pas grave. Et voilà, je dis pas que c'est toujours bien de le faire, mais il faut s'écouter, et si nous on a besoin d'être là pour nos parents, même après ce qu'ils nous ont fait, il faut s'écouter, et vaut mieux ça que de regretter après, notamment. Donc voilà, s'écouter, ne pas le prendre pour soi, en tout cas pour mes conseils.
Ok, parfait. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on clôture l'émission ?
Oui, qu'il faut en parler aussi quand même. Alors je dirais pas juste alerter toutes les personnes qui sont pas de notre entourage, mais c'est plus difficile après de soigner ses traumatismes quand on est adulte qu'enfant. Donc il faut plutôt aller entre guillemets consulter un psychologue ou ce genre de choses plus jeune, parce qu'après on en a moins envie et c'est plus difficile à soigner, on va dire.
Ah bah, je suis d'accord. Pour moi, en parler, bah, c'est le conseil que j'ai donné juste avant, mais pour moi, le plus important, c'est d'en parler, parce que même si on se dit bah, on est tout seul dans cette situation-là, au final, pas du tout. C'est justement en écoutant, en regardant des vidéos ou en écoutant des gens qui s'expriment sur cette situation-là, comme ce qu'on fait là maintenant, qu'on se rend compte que bah, y a d'autres gens qui vivent la même chose. Et donc, si eux arrivent à en parler, bah, peut-être qu'on peut essayer aussi, peut-être pas en faisant un podcast, mais peut-être juste en parlant à un psychologue, à un membre de sa famille. Et je pense que plus vite on en parle, mieux ce sera à l'avenir. C'est pas quelque chose qu'on va oublier, et je préfère pas mentir en disant bah, en parlant tout ira mieux du jour au lendemain. C'est pas le cas, c'est juste que ça nous permettra d'avancer et à nous à prendre cette maturité sur la situation, et comme tu disais, à se dire que bah, faut juste s'écouter. Si on a envie d'aider nos parents, si on a envie de leur pardonner, et bah, on le fait, parce que derrière c'est mieux de s'écouter que d'avoir des regrets.
Ok, parfait. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de On Papote. J'espère que l'émission vous a plu. Merci encore à nos invités du jour, Clara et Camélia, qui se sont confiés sur cette séparation familiale très personnelle. Vous nous avez écoutés sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas à noter l'émission pour continuer à soutenir le projet. Rendez-vous le mois prochain pour parler santé mentale et plus précisément maladie mentale. Entre clichés, jugements et acceptation du diagnostic, nous allons mettre en avant la parole de ceux qui ne l'ont pas sur un sujet aussi important que celui-là. Passez une bonne soirée et à bientôt !